Radio Jenny, la plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You fellow with your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like a shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar him.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
C'est l'heure du Canu Info. Nous sommes le mercredi 23 septembre et il est 19h passé de presque 5 minutes.
Ce soir, les putschistes débarrassent le plancher au Burkina.
À Notre-Dame-des-Landes, le juge est venu et il est reparti.
Nucléaire, incendie dans l'ancienne centrale de Brennilis, c'est en Bretagne.
Parution de deux brochures d'information sur la situation au Kurdistan.
Et quand on aura fini de parler de tout ça, ça sera l'heure de notre rubrique « Il faut que ça se sache ».
Mais on va commencer ce Canu Info par une rubrique qui se nomme « Info à la con ». Alors, pour la première info concerne les selfies. Les selfies, c'est une pratique qui consiste à se prendre en photo soi-même, la plupart du temps avec son téléphone portable. Et donc, pour pas mal de personnes, en plus de se prendre en photo soi-même avec son portable, le top de la classe, c'est de se prendre en plus sur les rails d'un train qui arrive à toute vitesse, par exemple. Mais cette pratique n'est pas sans danger. Des chiffres dramatiques viennent de tomber. Les selfies ont fait 12 morts dans le monde. Alors, petit palmarès des morts idiotes en selfie. Par exemple, une japonaise se prend en photo en haut des escaliers du Taj Mahal en Inde. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de marches. Hein. Et bim, elle perd l'équilibre, se casse la gueule et elle meurt en bas des escaliers. D'autres ne partent pas assez vite à l'arrivée du train où ils étaient en train de se prendre en photo. Et donc, bim, ils se font percuter par le train et meurent. Voilà. D'autres encore essayent de se prendre en photo avec des animaux dangereux et prennent en photo, mais se font bouffer derrière. Bref, vous l'aurez compris. Ce ne sont pas les plus malins qui partent le premier. Et donc ce chiffre est à mettre en balance quand même avec les 8 morts dues à des attaques de requins dont on nous a fait tout un flanc et où plusieurs personnes demandaient à ce qu'on les bute. À bien y réfléchir, je ne suis pas sûr que ce soit les requins qu'on devrait harponner en premier. Deuxième info à la con, et c'est une alerte attentat. Un attentat a été déjoué en Angleterre. Le suspect envisageait d'assassiner le prince Charles et le prince William. Mais dans quel but? S'agissait-il d'un djihadiste voulant faire de l'Angleterre le royaume de l'État islamique? Non. Ou était-ce un anarchiste voulant décapiter les têtes couronnées? Non plus. Non. Mark Colborne, c'est le terroriste en question. Ce Britannique de 37 ans fait partie de la mouvance radicale capillaire des pro-roux. Son but était de foutre une balle dans le crâne aux deux aînés de la famille pour que le prince Harry, qui lui est roux, accède enfin au trône. C'est son frère, le frère de Mark, qui l'a balancé car il a découvert des produits chimiques et des documents inquiétants dans la maison de famille. Non mais c'est tout ce que je raconte là est vrai hein, quand même. Dans les notes de Mark qui ont été retrouvées, on pouvait lire, je cite, « Je veux des représailles massives, un attentat terroriste de masse qui attirera l'attention sur notre souffrance, pas seulement la mienne, mais celle de mes frères à travers le monde. Je veux que le monde assiste à ma métamorphose d'un représentant de cette pauvre communauté rousse qui se fait marcher dessus constamment. » À un terroriste militaire. Nous faisons donc face à une nouvelle menace intérieure, la mouvance radicale pro-roux. Mais attention, derrière chaque roux ne se cache pas un terroriste en puissance. D'ailleurs, à Lyon, en marge de la journée du patrimoine, un rassemblement de roux a eu lieu. L'événement s'intitulait Apérou.
Le PRPR.
Et ce rassemblement s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, mais où certains et certaines participantes ont quand même raconté leur brimade quand ils étaient gosses. Les organisateurs du rassemblement se désolidarisent bien évidemment de l'extrémiste Mark Colborne. Bon, bien que peu de médias soient allés demander au premier roux qu'ils croisaient s'ils condamnaient les tentatives d'assassinat de Mark. Reste à savoir si demain, dans les écoles, des mômes seront envoyés en garde à vue pour avoir dit ou écrit « Je suis roux ».
Mon moi, puisque ça, moi aussi, j'en ai une petite rapidos d'info à la con. Il frappe un septuagénaire pour récupérer des échantillons gratos de Nutella. C'est Derek Garabigui, 24 ans, qui habite à Burbank en Californie et qui n'a pas hésité à frapper un vioc pour récupérer des échantillons de Nutella. Dimanche, Derek se trouvait dans un magasin Costco à Burbank et il était venu vraiment décider à obtenir un échantillon gratuit de Nutella qui était proposé ce jour-là dans le magasin. En fait, il a voulu en obtenir un, mais il les a plutôt tous raflés. Ce sur quoi Saak Saakian, un homme de 78 ans qui souhaitait également récupérer des échantillons gratos, lui a demandé d'en laisser pour les autres. S'en est suivi une dispute et Derek Garabigui a alors frappé le vieil homme au visage. C'est honteux d'en venir à de telles extrémités pour du Nutella, a jugé le sergent Claudio Losacco de la police de Burbank.
Mais moi j'ai quand même une question par rapport à la première info à la con, c'est sur les selfies, c'est que les selfies sont retrouvés. On voit peut-être de toutes ces personnes mortes là en se photographiant.
Ah bah j'imagine, en tout cas j'imagine pour une partie d'entre eux, oui c'est possible que si le portable il n'est pas trop endommagé.
Donc le iPhone est plus solide.
Plus costaud que l'homme, oui.
D'accord.
Au Burkina, donc, après le coup d'État, le putsch qui avait eu lieu il y a une semaine, en fait, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, eh ben, cette période de putsch semble terminée, en tout cas à peu près terminée, puisqu'aujourd'hui, le président de transition, Michel Kafando, a repris ses fonctions. Il y a même 6 chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui sont venus assister à son retour aux fonctions, en fait, dont 2 étaient déjà là depuis quelques jours, pour essayer de négocier avec les putschistes et pour amener ce retour du gouvernement de transition. Alors, pour revenir en arrière très très rapidement, il y a presque un an, au mois d'octobre 2014, le 17 octobre, avait eu lieu une sorte de révolution au Burkina et les Burkinabés avaient réussi à virer leur chef d'État, qui était à ce moment-là le chef d'État le plus ancien en exercice sur la planète, Blaise Compaoré, qui restait quand même 27 ans au pouvoir. Donc ça, c'était il y a un an. Et donc, il y a une semaine, le régiment de sécurité présidentielle qui était une sorte de régiment un peu dédié au président à l'époque de Compaoré, a lancé un putsch avec en particulier le chef de ce régiment de sécurité présidentielle, le RSP, donc le chef qui s'appelle Gilbert Diendéré, qui était un bras droit de l'ancien président. Et donc eux, ils ont fait un coup d'État, en prétextant en particulier le fait que la commission qui prépare les élections qui devraient avoir lieu en octobre au Burkina, que cette commission avait écarté les candidatures des gens qui étaient proches de l'ancien président. Et donc ils trouvaient que c'était pas démocratique de faire ça et que pour éviter ce manque de démocratie, ils avaient qu'à plutôt réinstaurer une sorte de dictature militaire. D'autre part, ils avaient de toute façon un petit peu peur que, juste après les élections, le prochain gouvernement fasse ce que le gouvernement de transition n'avait pas vraiment osé faire et qui était justement dissoudre ce RSP, ce régiment de sécurité présidentielle. Par la suite, pendant la semaine, il y a eu, bon, globalement, la communauté internationale n'était vraiment pas très très contente de ce coup d'État. Et puis les Burkinabés eux-mêmes ont quand même sacrément résisté. Il y a eu des manifestations tous les jours. Les Burkinabés, c'est quand même pas des gens qui se laissent faire globalement. Il faut savoir par exemple qu'au Burkina, tous les gouvernements, les uns après les autres, ont essayé d'instaurer le parti unique depuis l'indépendance et qu'aucun de ces gouvernements n'y a réussi. Il faut aussi savoir par exemple qu'il y a un mouvement syndical qui est très très fort au Burkina, beaucoup plus que dans les pays voisins par exemple. Donc là, en l'occurrence, les gens n'ont vraiment pas laissé faire. Alors, donc, ce qui s'est passé dans ces tout derniers jours, c'est d'une part que 2 autres présidents de la CEDEAO sont venus pour essayer de négocier un accord entre les putschistes et les gens qui avaient été renversés, et d'autre part que l'armée, c'est-à-dire le reste de l'armée, avait commencé à marcher de partout dans le pays en direction de Ouaga, la capitale, pour sortir de prison le président de transition qui était en prison jusqu'à avant-hier et pour rétablir le gouvernement de transition. Aujourd'hui, finalement, il y a eu un accord entre les putschistes et les militaires fidèles au gouvernement de transition. Cet accord prévoit d'une part que, bah alors que le président est revenu, là il a vraiment repris ses fonctions tout à l'heure cet après-midi, que le RSP, les militaires du RSP retournent dans leur caserne et en contrepartie, les autres militaires, eux, restent à 50 km de Ouagadougou. Alors, les points par contre qui ne sont pas abordés par l'accord et qu'il va falloir sans doute régler relativement rapidement derrière, c'est en particulier la question de l'amnistie des putschistes, qui est vraiment la question brûlante immédiatement. Alors Michel Cafando, le président de transition, dans son premier discours cet après-midi, a dit qu'il faudrait solder les conférences de ce qu'il appelle une funeste barbarie. C'est une des expressions qu'il a employées pour qualifier le putsch, en sachant qu'il en employait quand même toute une série qui n'était vraiment pas très tendre pour les putschistes. Bon, une grande partie des habitants de Ouaga est contre l'amnistie et certains hommes politiques réclament que soient situées les responsabilités pour les morts qui ont été engendrées par la répression des manifestations des 7 derniers jours. Une dizaine de morts sans doute, d'après ce qui a pu être compté par les hôpitaux. Bon, bien évidemment, cette question va être la plus difficile à résoudre à court terme. Alors après, la deuxième question, c'est la question du désarmement du RSP. Bon, pour l'instant, donc, les militaires du RSP sont rentrés dans leur caserne, mais ils n'ont pas encore déposé les armes. Gilbert Diendéré est toujours là, donc le chef du putsch. Et là encore, la pression est forte pour que le RSP dépose les armes, mais rien ne dit qu'une solution puisse être trouvée rapidement. Reste une question politique importante, c'est celle que Diendéré avait utilisée pour justifier le putsch et qui est l'inclusion des personnalités pro-Compaoré qui avaient été interdites d'élection et interdites de candidature aux prochaines élections. Le débat va reprendre entre les Burkinabés et risque d'être vif car les positions sont tranchées. Bon, globalement, la société civile et les partis politiques ne veulent pas revenir sur une décision qui a été actée par le Conseil constitutionnel, alors que en fait, il y a un parti qui est le CDP, qui est l'ancien parti de Blaise Compaoré. Lui, il souhaite aborder ce problème. Au final, on a donc un peu le sentiment aujourd'hui à Ouaga que le débat va reprendre là où on l'avait laissé avant le putsch, en quelque sorte. C'est un retour à la case départ. Alors, comme on a quand même du temps, on va revenir un tout petit peu plus longuement sur ce qui se passe dans ce pays, grâce à un article d'un journal burkinabé, un journal qui s'appelle l'Observateur Palga. Il faut aussi savoir qu'au Burkina, il y a une presse qui est quand même une presse qui ouvre sa gueule, qui est une presse qui, quels que soient les moments et les gouvernements et les tentatives plus ou moins dictatoriales de tel ou tel gouvernement, et en particulier du président qui est resté pendant 27 ans, Blaise Compaoré, une presse qui a toujours tenu à sa liberté de la presse de façon, disons, autrement plus sérieuse et intéressante que, par exemple, la presse française. Alors, eh ben oui, je vais vous lire cet article, écoutez. C'est un article qui est paru lundi dernier et qui s'appelle « Coup d'État du général Diendéré, Félonie ». Bon, il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, c'était le moment où le Diendéré en question était au pouvoir et où les gens se faisaient arrêter massivement. C'est à ce moment-là que ce journal écrivait ça. Et l'article était signé « La rédaction ». En convoquant le 12 octobre 2015 à Dakar un sommet extraordinaire sur les élections à problème au Burkina, en Guinée et en Côte d'Ivoire, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CDAO, était loin de se douter que les nôtres d'élections n'auraient pas lieu à la bonne date et qu'il serait obligé de venir lui-même dardar à Ouaga pour éteindre un incendie allumé par des pyromanes insoucieux. Tous les signaux étaient au vert et l'on s'acheminait tranquillement vers l'ouverture de la campagne électorale, initialement prévue pour ce dimanche 20 octobre 2015. C'était compté sans la désinvolture de quelques officiers, sous-officiers et hommes du rang félons, qui ont pris mercredi en otage le président Michel Cafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida, ainsi que des membres du gouvernement, avant de transformer au matin du jeudi leur forfaiture déjà gravissime en coup d'État. Et qui surgit à la tête de ce Conseil national de la démocratie ? Un certain Gilbert Diendéré, général de brigade de son état, connu, si on ose dire, comme le Loup Blanc. Celui-ci était en effet au cœur du pouvoir et de son système sécuritaire depuis une trentaine d'années, notamment depuis l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 87 et l'avènement du Front Populaire. Jusqu'à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui a chassé son mentor Blaise Compaoré, contraint à l'exil pendant que ses fidèles civils comme militaires restaient au pays et rasaient les murs. Qu'un soldat, qui traîne une réputation sulfureuse, comme Golf, ce qui est un des prénoms de ce Gilbert Diendéré, accusé à tort ou à raison des basses œuvres du défunt régime, se pique aujourd'hui de défendre la démocratie en péril, voilà qui prêterait à sourire si la situation n'était pas aussi tragique. C'est quand même lui et tous les autres qui ont assis et consolidé pendant trois décennies le régime autoritaire du Front Populaire, hérité de la Révolution, avant de créer une démocrature sur mesure où les élections étaient de simples formalités pour maintenir au pouvoir le clan prébendier qui a mis en coupe réglée l'économie nationale et consciencieusement pillé nos maigres ressources. Et parce que le maître, donc Blaise Compaoré, n'est plus là, on se découvre subitement une vocation de sauveur de la démocratie. Juste du fait que les petits copains et copines ont été interdits d'élection par le Conseil constitutionnel et qu'on veut démanteler le régiment d'insécurité présidentielle qui vient encore de montrer la barbarie dont il sait faire montre, dit Mort donc. S'il était vraiment la démocratie, les droits de l'homme et la liberté de presse chevillés au corps, Gilbert Diendéré, comme il veut le faire croire maintenant, ce Gilbert Diendéré qui voulait rectifier la transition comme il l'avait fait de la révolution un jour d'octobre 87, donc ça c'est l'époque où Thomas Sankara avait été destitué et assassiné, Gilbert Diendéré aurait fait son putsch avant nos quatre glorieuses, donc ça c'est la révolution qui a eu lieu il y a un an, pour empêcher le tripatouilleur Blaise Compaoré d'accomplir son forfait. S'il avait eu ce courage, nul doute que, malgré son lourd passif, les Burkinabés l'auraient lavé de tous ses péchés. Au lieu de quoi, mon général flingue un renouveau démocratique qui était sur de bons rails, quoi qu'on dise. En vérité, tout laisse croire que l'homme mince, donc toujours Diendéré, a perpétré ce qu'il n'a pu réaliser il y a un an. C'est connu, c'est faute de pouvoir hériter lui-même du fauteuil de son patron qu'il avait poussé au devant de la scène son bon petit Isaac, donc ça c'est Isaac Zida qui a été Premier ministre pendant un an et qui était lui-même issu de l'armée. Donc il avait poussé au devant de la scène son bon petit Isaac pour garder la haute main sur le pays et protéger ses arrières. Mais dans son scénario, il n'avait pas pensé que ce dernier s'affranchirait, avec tous les risques que ce nouveau statut comportait pour Golf et les siens. D'où la stratégie de pourrissement de la transition entreprise par le RSP. Et c'est ayant vu que, malgré tout, le scrutin aurait lieu et que ce serait définitivement la fin des haricots que Diendéré est passé à l'acte. C'est donc en réalité une lutte pour la survie au triple plan physique, matériel et judiciaire qu'il a engagé, au risque de plonger le Burkina dans le chaos. Le président guinéen Alpha Condé a raison, ouvrez les guillemets, c'est le putsch le plus bête du monde. Et ceux qui ont osé ne pouvaient que trouver sur leur chemin des Burkinabés déterminés à défendre leur patrie et sa démocratie. Maintenant que les choses seraient en train de rentrer dans l'ordre au prix d'un compromis boiteux pour sortir de l'impasse. Alors en réalité le compromis, on ne sait toujours pas exactement ce qui va être, mais cet article a été donc écrit avant-hier. Donc maintenant que les choses seraient en train de rentrer dans l'ordre, on fait quoi de ceux qui ont encore souillé le treillis en faisant couler le sang d'innocents aux mains nues, abattus froidement par des soudards ? Quand des militaires, censés assurer l'intégrité du territoire et protéger les populations ainsi que leurs biens, deviennent eux-mêmes source d'insécurité, ont-ils encore leur place dans une armée républicaine ? On vous l'avait dit dans notre édito de jeudi, c'est une felix culpa, ou une faute heureuse, qu'ils ont commise, car en voulant liquider la transition, ils se sont surtout tiré une balle dans le pied. Plus que jamais, l'urgence de la dissolution du RSP apparaît comme un impératif catégorique. En proposant de dissoudre ce RSP de sinistre mémoire, la Commission de réconciliation nationale et des réformes laissait sans doute le soin au futur président élu de trancher définitivement ce nœud gordien. Mais il n'y a guère plus d'autre choix que de le faire maintenant, en désarmant et en cantonnant les renégats, avant de les disperser aux quatre vents, à défaut de les radier purement et simplement des effectifs de l'armée, car après ce qu'ils ont fait depuis mercredi, ils n'ont vraiment plus leur place dans une caserne. Voilà, l'article était signé, la rédaction. Il était un peu long, mais je trouve que ça vaut le coup aussi à des moments de voir cette presse burkinabé qui est vraiment, vraiment intéressante.
Et voilà, petite pause musicale avec Kenny Arcana, La Rage. Maintenant, on part à Notre-Dame-des-Landes, où le juge est venu et est reparti. Donc c'était cette visite accompagnée par les flics hier, mardi 22 septembre, qui a fait chou blanc. Puisque le gouvernement a déclaré ne plus vouloir attendre les appels des recours contre le projet d'aéroport. Il a choisi de commencer par remettre la pression sur les locataires historiques de la ZAD en faisant venir chez eux le juge des expropriations. Il affirme que cette démarche est une étape vers l'expulsion policière de la ZAD et vers le démarrage des travaux de l'aéroport. Donc, hier, à partir de 7h du matin, la ZAD était bloquée en 6 points d'accès par des barricades, plusieurs centaines de personnes et une trentaine de tracteurs. Donc, il s'agissait, en empêchant la venue du juge des expropriations, de répondre avec détermination aux menaces du sous-préfet. Voilà, ce qui a plutôt bien marché, puisque comme le mouvement anti-aéroport a été réactif et qu'il y a eu beaucoup de monde sur le terrain, vers 9h, donc plusieurs 4x4 suivis de voitures de gendarmerie sont arrivés à une centaine de mètres d'une des barricades, et où 200 personnes environ étaient présentes. Donc le juge est descendu, a essayé de rentrer, il a insisté pour passer. Mais les gens lui ont dit qu'il était hors de question de mettre le pied sur cette zone. Et ils ont fini par partir. C'est en fin de matinée, tous les blocages étaient levés puisque ils avaient eu vent par l'avocat des locataires que le juge renonçait à venir ce jour-là. Donc voilà, la détermination des habitantes, des occupantes et des soutiens reste forte. Et ils affirment dans leur communiqué, il n'y aura pas d'expulsion de la ZAD, l'aéroport ne se fera pas.
En Bretagne, incendie à la centrale nucléaire de Brennilis. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui à 15h45 dans la centrale nucléaire de Brennilis, c'est dans le Finistère. Le feu aurait pris dans un atelier de conditionnement de déchets à l'intérieur de l'enceinte du réacteur de la centrale. Selon le directeur de cabinet du préfet du Finistère, les pompiers sont sur place et l'autorité de sûreté nucléaire a été prévenue. 4 membres du personnel ont été évacués. Les tests de radioactivité menés sur eux se sont révélés négatifs. L'incendie a été maîtrisé aux alentours de 17h20, soit une heure et demie après qu'il ait commencé. C'est un sas en plastique qui serait à l'origine de l'incendie. Le toit de ce sas s'est écroulé et les fumées de l'incendie se sont répandues à l'intérieur du dôme, a expliqué M. Montet-Jourdran, qui est donc le directeur de cabinet du préfet. Les fumées seraient contenues à l'intérieur du dôme lui-même, équipé de moyens de filtration des éléments radioactifs. Donc tout ça est quand même plutôt bien foutu finalement.
Oui, on connaît bien le système de filtration. Mais alors surtout, radioactivité.
Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle de cet incendie, alors que finalement cet incendie a eu lieu où ? Dans une centrale nucléaire qui est arrêtée depuis 1985, c'est-à-dire il y a 30 ans. Il y a 30 ans que cette centrale est arrêtée. Donc on pourrait se dire, ce qui reste, c'est des bâtiments vides. Des hangars, quoi.
Eh bien non, parce que...
Elle est quand même encore en cours de démantèlement. Alors bon, déjà en 80, il leur a fallu un moment pour le commencer, vu qu'à l'époque, ils ne savaient pas comment on démantelait une centrale sans empoisonner... La population jusqu'à très très loin alentour. Donc les opérations de démantèlement ont été entamées en 95, elles ont été arrêtées et reprises en 2011 et elles se poursuivent et elles sont loin loin d'être achevées. Le gros du chantier reste encore à faire, notamment le démantèlement du bloc du réacteur nucléaire qui concerne 90% de la radioactivité du site. Comme quoi, si un jour on veut arrêter de flipper de Fessenheim ou d'ailleurs de toutes les autres centrales, eh ben, il va falloir commencer à y penser très longtemps avant d'arrêter de flipper.
Et surtout, cet incendie ne cause aucun dégât à côté.
Non.
Et alors, c'est des brochures qui sont sorties sur la situation au Kurdistan. Donc, comme on en parle assez souvent dans ce Canu Info, ça m'a direct titillé. C'est le collectif Marseille Rojava et le blog Nevar Neyok qui proposent 2 nouvelles brochures autour de la question du mouvement d'émancipation sociale qui se déroule au Kurdistan et de la lourde répression conduite par l'État turc ces derniers mois. Donc c'est possible de les télécharger sur ces 2 sites dont je vous ai parlé et également sur le site d'info marsinfo.org. Voilà. Et dans quelles idées et perspectives, en gros, ces brochures sont faites. Si vous nous avez écoutés, si vous avez suivi l'actualité, vous savez que la guerre repris en Turquie, que Erdogan a relancé depuis juillet une guerre contre les Kurdes. Et donc c'est dans cette idée-là. Je me suis un peu perdue. Donc l'Occident capitaliste, chrétien et démocrate, pour ne pas froisser son allié turc au sein de l'OTAN, s'est réfugié depuis dans le silence complice qu'il maîtrise toujours si bien. Et quasi pas un mot depuis le 20 juillet dernier sur la guerre coloniale que l'État turc a relancée au Kurdistan. Peu de commentaires sur les vagues d'arrestations qui ont ciblé dans toute la Turquie des milliers de militants communistes kurdes ou turcs, peu non plus sur les bombardements des combattantes kurdes du PKK qui combattaient des gangs fascistes de l'État islamique, ni sur les centaines de civils kurdes tués en 2 mois par l'armée turque ou lors des lynchages organisés par les nationalistes turcs. Donc cette brochure est une contribution en solidarité avec le mouvement kurde, durement attaqué en ce moment par l'État, mais aussi par Erdogan, Voilà, ils sont réunis dans cette brochure un certain nombre de textes tirés de sites internet comme kedistan.fr, suzamsokak.fr, nevraneyok.noblogs.org et du journal CQFD. Donc ce choix de texte est loin d'être exhaustif, mais voilà, je trouvais ça intéressant de, d'en parler maintenant. Donc bonne lecture.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine.
Contre la machine à expulsion.
Depuis le 21 septembre, l'armée et la police hongroise ont le droit de tirer sur les migrants avec n'importe quel type d'arme dite non létale. C'est-à-dire ballon caoutchouc, engin pyrotechnique, grenade lacrymogène et fusil à filet. Le texte précise pas les armes doivent être non létales, mais les tirs, on n'est pas sûr. L'armée est autorisée à pratiquer des contrôles d'identité et à placer les migrants en garde à vue. La police est également autorisée à perquisitionner un domicile privé susceptible d'accueillir un ou des migrants. Ces mesures s'appliquent dans 6 départements limitrophes avec la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche. La nouvelle loi a été adoptée par 151 voix pour, 12 contre et 27 abstentions. Je crois que ça se passe de commentaires.
Et maintenant, en Calaisie, donc à Noranfonte, il y a eu délit de solidarité. Donc Noranfonte, on en avait déjà parlé parce qu'il y a une asso qui s'appelle Terre d'Errance, qui depuis des années avec les migrants qui arrivaient dans le coin, ont assuré une sorte d'habitation un peu de fortune, mais qui permettait d'habiter. Du coup, c'est parce qu'il y a l'autoroute qui passe par Noranfonte où des migrants restaient, et du coup des habitants sont un peu solidarisés pour qu'ils aient un peu un toit, pour faire que le préfet arrête d'expulser tous les mois et que chaque fois les cabanes doivent être construites. Et mercredi dernier, 16 septembre, là, un bénévole de Terre d'Errance s'était entendu par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le procureur à cause des palettes, de la tôle et des bâches que l'association a commencé d'assembler pour abriter les exilés sans refuge qui passent par là. Une vingtaine de personnes l'ont soutenu devant la gendarmerie et jeudi 17, c'était au tour de la présidente de l'association et une quarantaine de personnes étaient présentes. Il faut dire que cette pratique-là, elle existe depuis des années et c'est aussi maintenant que là, le préfet décide de faire chier. Donc l'association est donc mise en cause à l'heure où de grands discours d'accueil sont prononcés dans toute l'Europe. Donc là, à l'asso, il lui est reproché de ne pas avoir respecté le droit de l'urbanisme, alors qu'elle construit un abri d'infortune sur un terrain perdu entre les champs qui a été mis à disposition par la précédente municipalité sans que cela n'ait été contesté par le maire actuel. Donc vous voyez les campements, ils y étaient déjà. La préfecture la décide de faire chier. En vrai, vous voyez, entre le village et l'aire d'autoroute, c'est vraiment des endroits qui font particulièrement où ils veulent trop bâtir des trop chouettes maisons, quoi. Voilà. Et sinon, alors, et aussi pour dire, si vous voulez plus d'infos sur cet assaut, on avait l'année dernière diffusé un reportage là sur une membre de cet asso là qui décrivait un peu plus l'organisation. Et du coup, vous pouvez le retrouver soit sur notre blog, soit sur son lutte. Et lundi, sinon, il y a eu à Calais, il y a eu l'évacuation des deux campements d'exilés syriens, de la place Henri Barbus et du hangar Paul Devaux. Il y a eu les Syriens, ils ont fait des sittings dans la ville, là, ils ont manifesté, mais ça n'a pas suffi pour empêcher l'expulsion. Et voilà, autre info qui se passe de commentaires. Il y a eu également dans le centre-ville deux autres expulsions, je crois c'est mardi, et il y a une partie du bidonville d'État qui a été nettoyée, quoi. Du coup, c'est comme ça l'accueil de la France, ce bulldozer détruisant les abris et les effets personnels de plein de gens. Et ça, c'est dans le contexte où samedi, il y a eu une des plus grandes manifestations de solidarité avec les exilés que Calais ait connue. Et donc là, vous voyez toutes les infos que j'ai dit, lundi, mardi, le gouvernement répond par la violence et la violation de la loi. Donc les effets d'annonce masquent donc un durcissement des politiques migratoires. Il ne suffit plus de dire « Refugees welcome », il faut expliciter comment on y arrive.
Il faut que ça se sache.
Alors, une info un tout petit peu plus légère pour ce faut que ça sache, c'est que c'est pas sûr que la France réussisse à accueillir 24 000 migrants. Alors, non pas que le gouvernement a revu ce chiffre à la baisse, mais plutôt que personne ne veut venir ici. Pour l'instant, on est très très loin de ce tsunami de migrants qui allait mettre en péril cette bonne vieille France catholique saucisson vin rouge, puisque pour l'instant, 600 réfugiés syriens ont été placés dans un centre d'accueil en Île-de-France. Et oui, la plupart des migrants n'ont pas comme but la France. Pour eux, notre pays traite trop mal les migrants. Les demandeurs d'asile n'ont pas le droit au travail, par exemple, et de toute façon, il y a beaucoup trop de chômage. L'économie se porte très mal, et niveau hébergement, c'est soit un squat, soit un campement de fortune pourri, délogé en permanence par les flics. C'est dire si on vit dans un pays de merde, ou même un type qui fuit la Syrie de Bachar el-Assad et Daesh ne veut pas venir ici.
Ça se sache.
Hypocrisie de l'Europe forteresse. Donc les murs se multiplient aux frontières de l'Europe, donc frontières extérieures, le mur entre la Hongrie et la Serbie succédant au mur entre la Bulgarie et la Turquie, frontières intérieures entre la Hongrie et la Roumanie et multiplication des barrières à la frontière britannique sur le sol français. Les contrôles sont rétablis à certaines frontières intérieures à l'espace Schengen. Au contrôle au faciel mis en place par la France à sa frontière avec l'Italie succède ce mis en place par l'Allemagne, l'Autriche d'autres pays devraient suivre. Des moyens militaires sont déployés pour bloquer certaines populations à frontière, d'abord par la Bulgarie, puis aujourd'hui par la Hongrie et l'Autriche, comme en Méditerranée par l'Union européenne, sous couvert de lutter contre les bateaux des passeurs. Les témoignages qui viennent de ces différentes frontières montrent la violence qui est exercée sur les personnes qui viennent chercher un avenir en Europe. Et j'avais envie de vous lire l'intégralité d'un texte qui s'appelle « Nous sommes ici parce que vous détruisez nos pays ». Ce texte, il a été, c'est pour montrer donc toujours autour de cette hypocrisie de l'Europe là ces derniers temps. C'est un texte qui a été publié mi-août par l'Espace international des femmes à Berlin, un groupe de femmes migrantes et réfugiées en provenance de pays anciennement colonisés. Et ce groupe était né pendant l'occupation par des réfugiés de l'ancienne école Gerhard Hauptmann en décembre 2012 à Berlin. Donc je vous le lis. Nous avons vu dans les médias mainstream des reportages sur la solidarité croissante des Allemands envers les réfugiés. Article après article, les journalistes parlent des structures d'accueil ouvertes dans différentes parties du pays. Des personnes créent des sites internet qui offrent des hébergements temporaires aux réfugiés. D'autres collectent les vêtements et apportent de la nourriture aux réfugiés qui campent en face de Lagezo à Berlin. l'Office d'État pour la santé et les affaires sociales. Les illusions de ces articles montrent des situations peut-être rencontrées. Les illustrations de ces articles montrent des situations qui peuvent être rencontrées au Liban, qui accueille plus d'un million de réfugiés, ou en Grèce, un pays qui est confronté à une grave crise économique, avec l'aimable autorisation de l'Allemagne et de toute évidence incapable d'offrir quelque chose de plus que la solidarité de ses propres habitants. La réalité est que l'Allemagne est l'un des plus riche pays européen, qui a les moyens et pourrait, s'il le voulait, avoir des structures adéquates pour accueillir les réfugiés. L'empathie des habitants est toujours la bienvenue, ainsi que leur effort. Mais si cela ne dépasse pas le niveau de la charité, cela tue tout mouvement politique. L'appauvrissement des personnes qui deviennent des réfugiés n'est pas nouvelle et les raisons sont à chercher dans l'histoire et ne peuvent être comprises que par ceux qui veulent savoir pourquoi les êtres humains utilisent des moyens désespérés pour venir en Europe. Le colonialisme, l'esclavage et la suprématie de la pensée blanche sont les causes de la situation actuelle. Voilà pourquoi les gens viennent en Europe. Ils fuient les pays détruits par les politiques des pays occidentaux. Nous, en tant que groupe politique, nous regardons la situation actuelle en Allemagne avec suspicion. Nous semblons avoir oublié les revendications des réfugiés qui ont lutté depuis plus de 20 ans dans les rues de ce pays. Plus personne ne cite le slogan « Nous sommes ici parce que vous détruisez nos pays ». Slogan des plus importantes campagnes de ces dernières années, menées par des groupes politiques auto-organisés de migrants et de réfugiés tels que The Voice Refugee Forum et the Caravan for the Rights of Refugees and Migrants. Il n'est également pas fait mention dans les médias de la Refugee Protest March quand, en 2012, un groupe de réfugiés a marché 600 km de Munich à Berlin et a occupé jour et nuit Lorianeplatz dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, luttant chaque jour pour revendiquer la fermeture de tous les camps. L'arrêt des expulsions, l'abolition du système de résistance et la libre circulation pour tous. Aussi, on ne trouve presque aucune référence à l'occupation de l'école via sur la rue Olauer, toujours dans le quartier de Kreuzberg, où un groupe de réfugiés se bat toujours pour le droit de rester dans l'établissement où ils ont vécu après son occupation en 2012. Il y a seulement une année, ce sont des milliers de Berlinoises qui ont soutenu la résistance sur le toit de l'école Olauer et il semble maintenant que tout cela n'a jamais eu lieu et que la nouvelle approche et de la vague de solidarité de la part d'individus prêts à aider des réfugiés et de critiquer les manquements de Lagueso, responsable du logement des demandeurs d'asile dans les camps. Oui, Lagueso doit être critiqué, mais il ne doit pas devenir le protagoniste dans cette histoire. Lagueso ne peut pas résoudre le problème parce que leur solution perpétue un autre problème, l'isolement des réfugiés dans les lagers, situés dans de petits villages, au milieu de nulle part, sans accès à des soins de santé, à l'école ou à des possibilités d'emploi. Tout cela a été dit d'innombrables fois par des groupes de réfugiés auto-organisés. Nous devons rappeler que faire de Lagueso le cœur du problème est une stratégie et que, si nous ne faisons pas attention, nous verrons bientôt des manifestations pour exiger de Lagueso l'ouverture de nouveaux lagers. N'oublions pas. N'oublions pas, nous exigeons la fermeture des lagers et non l'inverse. Nous exigeons le droit pour les demandeurs d'asile de choisir où vivre dans des appartements normaux comme toute autre personne qui ne cherche pas l'asile dans ce pays. Les gens ne viennent pas en Europe de dépendre de la charité des particuliers ou tomber dans les mains de Lagueso et de son système de lagers. Nous exigeons la liberté de circulation pour toutes et tous. Nous croyons qu'en s'engageant politiquement dans la lutte, tout le monde s'engagera aussi dans le mouvement du 21e siècle, comme Angela Davis judicieusement souligné. Le mouvement des réfugiés est le mouvement qui réclame des droits pour tous les êtres humains. L'espace international des femmes lance un appel à la mobilisation politique. Soutien, aide et charité ne vont pas changer le système, mais ils ont tendance à perpétuer l'idée d'une Europe humanitaire qui n'existe certainement pas vu le nombre de personnes qui sont mortes en mer en essayant d'arriver ici. Les gens sont en train de fuir des situations catastrophiques créées par les pays occidentaux. Il est temps de crier à haute voix à nouveau « Nous sommes ici parce que vous détruisez nos pays ». Et voilà, et donc pourquoi un peu j'ai eu aussi, j'ai trouvé ce texte et j'ai eu envie de le lire ce soir, c'est pour tous les gens là, suite aux déclarations des médias qui disaient mais qu'est-ce qu'on fait, il faut dans nos villages, dans nos villes, faire des choses. Et ben moi j'ai envie de répondre, et ben faisons comme on a toujours fait quand on milite là, et ben continuons à faire exactement les mêmes choses, il n'y a pas d'autres... d'autres choses à faire et pas à écouter en tout cas ce que ces médias nous disent.
Et puis ce qui est pas mal dans ce texte, c'est que ça met aussi vachement en perspective, là, moi j'ai l'impression que dans les médias, un peu entre les lignes, on nous vante un peu le système d'accueil allemand qui est quand même vraiment très très contraignant pour les migrants. Alors certes, sur le papier, ça offre aussi apparemment plus de droits, notamment sur le travail et tout, en France, mais c'est quand même vraiment des trucs de liberté de circulation qui sont pas possibles. Enfin, c'est vraiment les gens, ils vivent vraiment dans des prisons entre guillemets un peu à ciel ouvert, et je trouve que c'est pas mal que ça mette en perspective ce truc là où c'est pas l'espèce de d'Eldorado qu'on voudrait nous faire croire sur le niveau des conditions d'accueil des migrants.
Ouais, et puis ouais, c'est ça, il y a vraiment pas de libre circulation quand on t'a assigné quelque part, t'as pas le droit d'aller travailler dans une autre ville. Donc même si le droit du travail est, c'est compliqué. Bref, voilà. Et ben oui, et puis je disais, continuer à faire ce qu'on a toujours fait là, peut-être ça vaut le coup de préciser, mais toutes ces dynamiques autour d'ouverture de squats pour que les gens ils aient les maisons au centre-ville, du moins en tout cas dans là où ils ont envie d'habiter et pas excentrés, ça vaut aussi pour la France. Même si c'est un texte allemand. Et voilà, je crois que ce qu'a dit Info va vers sa fin.
Se termine.
Et ben, on va vous laisser avec 10 minutes de bande continue, et après vous allez retrouver Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.
Ciao.